C'était un jour ordinaire. Il ne s'était rien passé de spécial. Les parents exerçaient leur métier de parents, les enfants exécutaient leur mission d'enfant, le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Comme tel, on n'en a gardé aucune trace. Semblablement, on n'a conservé aucune archive du jour où un homme s'est mis debout pour la première fois, ni du jour où un homme a enfin compris la mort. Les événements les plus fondamentaux de l'humanité sont passés presque inaperçus. Soudain, la maison se mit à retentir de hurlements. La mère et la gouvernante, d'abord pétrifiées, cherchèrent l'origine de ces cris. Un singe s'était-il introduit dans la demeure? Un fou s'était-il échappé d'un asile? En désespoir de cause, la mère alla regarder dans sa chambre. Ce qu'elle y vit la stupéfia. Dieu était assis dans son lit cage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. La mère s'approcha de la scène mythologique. Elle ne reconnaissait plus ce qui pendant 2 années avait constitué un spectacle si apaisant. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. À présent, ses pupilles étaient entièrement noires, d'un noir de paysage incendié. Qu'avait-il pu y avoir d'assez fort pour brûler ses yeux pâles et les rendre noirs comme du charbon? Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier? La seule évidence, c'était que l'enfant était furieux. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, et si personne n'en connaissait l'origine, le motif devait en être très grave au vu de son ampleur. La mère, fascinée, vint prendre son rejeton dans les bras. Elle dut aussitôt le déposer dans le lit cage car il gesticulait de tous ses membres et la cognait. Elle courut dans la maison en clamant « La plante n'est plus une plante !» Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Après quelques heures, il cessa de hurler, mais ses yeux restèrent noirs de rage. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Puis, épuisé par tant de mauvaise humeur, il s'allongea et s'endormit. La famille applaudit. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. L'enfant était enfin vivant. Comment expliquer cette naissance postérieure de 2 ans à l'accouchement? Aucun médecin ne trouva la clé du mystère. C'était comme s'il avait eu besoin de 2 années de grossesse extra-utérine supplémentaire pour devenir opérationnel. Oui, mais pourquoi cette colère? La seule cause que l'on puisse supposer était l'accident mental. Quelque chose était apparu dans son cerveau qui lui avait semblé insoutenable. Et en 1 seconde, la matière grise s'était mise en branle. Des influx nerveux avaient circulé en cette chair inerte. Son corps avait commencé à bouger. Ainsi, les plus grands empires peuvent s'effondrer pour des motifs parfaitement inconnaissables. D'admirables enfançons immobiles comme des statues peuvent, en une chiquenaude, se muer en bêtes braillardes. Le plus étonnant est que cela enchante leur famille. Sic transit tubi gloria. Le père était aussi excité que si un 4e enfant lui était né. Il téléphona à sa mère qui demeurait à Bruxelles. « La plante s'est réveillée. Prends un avion et viens !» La grand-mère dit qu'elle allait se faire couper quelques nouveaux tailleurs avant de venir. C'était une femme très élégante. Cela ajournait sa visite de plusieurs mois. Entre-temps, les parents commençaient à regretter le légume d'antan. Dieu ne décolérait pas. Il fallait presque lui jeter son biberon de peur de recevoir un coup. Il pouvait se calmer pendant quelques heures, mais on ne savait jamais ce que cela présageait. Le scénario nouveau était celui-ci. On profitait d'un moment où il était tranquille pour prendre le bébé et le mettre dans son parc. Il restait d'abord hébété à contempler les jouets qui l'entouraient. Peu à peu, un vif désagrément s'emparait de lui. Il s'apercevait que ces objets existaient en dehors de lui, sans avoir besoin de son règne. Cela lui déplaisait et il criait. D'autre part, il avait observé que les parents et leurs satellites produisaient avec leur bouche des sons articulés bien précis. Ce procédé semblait leur permettre de contrôler les choses, de se les annexer. Il eût voulu faire de même. N'était-ce pas l'une des principales prérogatives divines que de nommer l'univers? Il désignait alors du doigt un jouet et ouvrait la bouche pour lui donner l'existence. Mais les sons qu'il produisait ne formaient pas des suites cohérentes. Il en était le premier surpris, car il se sentait tout à fait capable de parler. L'étonnement passé, il trouvait cette situation humiliante et intolérable. La colère s'emparait de lui et il se mettait à hurler sa rage. Tel était le sens de ses cris. « Vous bougez vos lèvres et il en sort du langage. Je bouge les miennes, il n'en sort que du bruit. Cette injustice est insupportable. Je gueulerai jusqu'à ce que ça se transforme en mots. » Telle était l'interprétation de la mère. Être encore un bébé à 2 ans, ce n'est pas normal. Il se rend compte de son retard et ça l'énerve. Faux. Dieu ne se trouvait absolument pas en retard. Qui dit retard dit comparaison. Dieu ne se comparait pas. Il sentait en lui un pouvoir gigantesque et s'offusquait de se découvrir incapable de l'exercer. Sa bouche le trahissait. Il ne doutait pas un instant de sa divinité et s'indignait que ses propres lèvres n'aient pas l'air au courant. La mère s'approchait de lui et prononçait des mots simples en articulant très fort. « Papa ! Maman !» Il était furieux qu'elle lui propose d'aussi sottes imitations. Ne savait-elle donc pas à qui elle avait affaire ? Le maître du langage, c'était lui. Jamais il ne s'abaisserait à répéter « maman » et « papa ». À titre de représailles, il hurlait de plus belle et de plus laide. Peu à peu, les parents commencèrent à évoquer leur ancien enfant. Avait-il gagné au change ? Ils avaient un rejeton mystérieux et calme et se retrouvaient avec un chiot d'Obermann. « Tu te souviens comme elle était jolie, la plante, avec ses grands yeux sereins ? Oh, et les bonnes nuits qu'on passait ?» C'en était fini de leur sommeil. Dieu était l'insomnie personnifiée. C'était à peine s'il dormait 2 heures par nuit. Et dès qu'il ne dormait pas, il manifestait sa colère par des cris. « Ça va !» le tançait le père. « On le sait que tu viens de passer 2 années à roupiller. C'est pas une raison pour ne plus permettre à personne de dormir. » Dieu se conduisait comme Louis XIV. Il ne tolérait pas qu'on dorme s'il ne dormait pas, qu'on mange s'il ne mangeait pas, qu'on marche s'il ne marchait pas et qu'on parle s'il ne parlait pas. Ce dernier point, surtout, le rendait fou. Les médecins ne comprirent pas davantage ce nouvel état que le précédent. L'apathie pathologique s'était muée en irritabilité pathologique, sans qu'aucune analyse n'explique le diagnostic. Ils préférèrent recourir à une sorte de bon sens populaire. C'est pour compenser les 2 années précédentes. Votre enfant finira bien par se calmer. Si je ne l'ai pas jeté par la fenêtre auparavant, pensait la mère exaspérée. Les tailleurs de la grand-mère furent prêts. Elle les mit dans une valise, passa chez le coiffeur et prit l'avion Bruxelles-Osaka qui, en 1970, effectuait le trajet en quelques 20 heures. Les parents l'attendaient à l'aéroport. Ils ne s'étaient pas vus depuis 1967. Leur fils fut enlacé, la belle-fille fut congratulée et le Japon admiré. En chemin vers la montagne, on parla des enfants. Les 2 aînés étaient merveilleux. Le 3e était un problème. « On n'en veut plus. » La grand-mère assura que tout allait s'arranger. La beauté de la maison l'enchanta. « Que c'est japonais !» s'exclama-t-elle en regardant la salle de tatami et le jardin qui, en ce mois de février, blanchissait déjà sous les pruniers en fleurs. Elle n'avait plus vu le frère et la sœur depuis 3 années. Elle s'extasia des 7 ans du garçon et des 5 ans de la fille. Elle demanda alors à être présentée au 3e enfant qu'elle n'avait encore jamais rencontré. On ne voulut pas l'accompagner dans l'antre du monstre. « C'est la première à gauche, tu ne peux pas te tromper. » De loin, on entendait des hurlements rauques. La grand-mère prit quelque chose dans son sac de voyage et marcha courageusement vers la reine. 2 ans et demi, cris, rage, haine. Le monde est inaccessible aux mains et à la voix de Dieu. Autour de lui, les barreaux du liquage. Dieu est enfermé. Il voudrait nuire et n'y parvient pas. Il se venge sur le drap et la couverture qu'il martèle de coups de pied. Au-dessus de lui, le plafond et ses fissures qu'il connaît par cœur. Ce sont ses seuls interlocuteurs. C'est donc à eux qu'il hurle son mépris. Visiblement, le plafond s'en fout. Dieu en est contrarié. Soudain, le champ de vision se remplit d'un visage inconnu et inidentifiable. Qu'est-ce que c'est ? C'est un humain adulte, du même sexe que la mère, semble-t-il. La première surprise passée, Dieu manifeste son mécontentement par un long râle. Le visage sourit. Dieu connaît ça. On essaie de l'amadouer. Ça ne prend pas. Il montre les dents. Le visage laisse tomber des mots avec sa bouche. Dieu boxe les paroles au vol. Ses poings fermés rossent les sons et les mettent KO. Dieu sait qu'après, le visage essaiera de tendre la main vers lui. Il a l'habitude, les adultes approchent toujours leurs doigts de sa figure. Il décide qu'il mordra l'index de l'inconnu. Il se prépare. En effet, une main apparaît dans son champ de vision, mais, stupeur, il y a entre ses doigts un bâton blanchâtre. Dieu n'a jamais vu ça et en oublie de crier. « C'est du chocolat blanc de Belgique », dit la grand-mère à l'enfant qu'elle découvre. De ces mots, Dieu ne comprend que blanc. Il connaît, il a vu ça sur le lait et les mûres. Les autres vocables sont obscurs. Chocolat et surtout Belgique. Entre-temps, le bâton est près de sa bouche. « C'est pour manger », dit la voix. « Manger, Dieu connaît. C'est une chose qu'il fait souvent. » Manger, c'est le biberon, la purée avec des morceaux de viande, la banane écrasée avec la pomme râpée et le jus d'orange. Manger, ça sent. Le bâton blanchâtre a une odeur que Dieu ne connaît pas. Ça sent meilleur que le savon et la pommade. Dieu a peur et envie en même temps. Il grimace de dégoût et salive de désir. En un soubresaut de courage, il attrape la nouveauté avec ses dents, la mâche, mais ce n'est pas nécessaire, ça fond sur la langue. Ça tapisse le palais. Il en a plein la bouche. Et le miracle a lieu. La volupté lui monte à la tête, lui déchire le cerveau et y fait retentir une voix qu'il n'avait jamais entendue. C'est moi. C'est moi qui vis. C'est moi qui parle. Je ne suis pas il ni lui. Je suis moi. Tu ne devras plus dire « il » pour parler de toi, tu devras dire « je ». Et je suis ton meilleur ami. C'est moi qui te donne le plaisir. Ce fut alors que je naquis. À l'âge de 2 ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. La voix, qui depuis ne s'est jamais tue, continua à parler dans ma tête. « C'est bon, c'est sucré, c'est onctueux, j'en veux encore. » Je remordis dans le bâton en rugissant. « Le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi. Moi, c'est le siège du plaisir. » Le plaisir, c'est moi. Chaque fois qu'il y aura du plaisir, il y aura moi. Pas de plaisir sans moi, pas de moi sans plaisir. Le bâton disparaissait en moi, bouchée par bouchée. La voix hurlait de plus en plus fort dans ma tête. Vive moi ! Je suis formidable comme la volupté que je ressens et que j'ai inventée. Sans moi, ce chocolat est un bloc de rien. Mais on le met dans ma bouche et il devient le plaisir. Il a besoin de moi. Cette pensée se traduisait par des éructations sonores de plus en plus enthousiastes. J'ouvrais des yeux énormes, je secouais les jambes de joie. Je sentais que les choses s'imprimaient dans une partie molle de mon cerveau qui gardait trace de tout. Morceau par morceau, le chocolat était entré en moi. Je m'aperçus alors qu'au bout de la friandise défunte, il y avait une main, et qu'au bout de cette main, il y avait un corps surmonté d'un visage bienveillant. En moi, la voix dit « Je ne sais pas qui tu es, mais vu ce que tu m'as apporté à manger, tu es quelqu'un de bien. » Les deux mains soulevèrent mon corps du liquage et je fus dans des bras inconnus. Mes parents stupéfaits virent arriver la grand-mère souriante qui portait une enfant sage et contente. « Je vous présente ma grande amie, » dit-elle triomphante. Je me laissais transbahuter de bras en bras avec bonté. Mon père et ma mère n'en revenaient pas de la métamorphose. Ils étaient heureux et vexés. Ils questionnèrent la grand-mère. Celle-ci se garda bien de révéler la nature de l'arme secrète à laquelle elle avait recouru. Elle préféra laisser planer un mystère. On lui supposa des dons de démonologie. Personne n'avait prévu que la bête se rappellerait son exorcisme. Les abeilles savent, elles, que seul le miel donne aux larves le goût de la vie. Elles ne mettraient pas au monde d'aussi ardentes butineuses en les nourrissant de purée avec des petits carrés de viande. Ma mère avait des théories sur le sucre qu'elle rendait responsable de tous les maux de l'humanité. C'est pourtant au poison blanc, ainsi le nommait-elle, qu'elle doit d'avoir un troisième enfant qui soit d'une humeur acceptable. Je me comprends. À l'âge de 2 ans, j'étais sortie de ma torpeur pour découvrir que la vie était une vallée de larmes où on mangeait des carottes bouillies avec du jambon. J'avais dû avoir le sentiment de m'être fait avoir. À quoi bon se tuer à naître, si ce n'est pour connaître le plaisir? Les adultes ont accès à 1000 sortes de voluptés, mais pour les enfançons, il n'y a que la gourmandise qui puisse ouvrir les portes de la délectation. La grand-mère m'avait rempli la bouche de sucre. Soudain, l'animal furieux avait appris qu'il y avait une justification à tant d'ennuis, que le corps et l'esprit servaient à exulter et qu'il ne fallait donc pas en vouloir ni à l'univers entier, ni à soi-même d'être là. Le plaisir profita de l'occasion pour nommer son instrument. Il l'appela « moi », et c'est un nom que j'ai conservé. Il existe depuis très longtemps une immense secte d'imbéciles qui oppose sensualité et intelligence. C'est un cercle vicieux. Ils se privent de volupté pour exalter leur capacité intellectuelle, ce qui a pour résultat de les appauvrir. Ils deviennent de plus en plus stupides, ce qui les conforte dans leur conviction d'être brillants, car on n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. La délectation rend humble et admiratif envers ce qui l'a rendu possible. Le plaisir éveille l'esprit, le pousse tant à la virtuosité qu'à la profondeur. C'est une si puissante magie qu'à défaut de volupté, l'idée de volupté suffit. Du moment qu'existe cette notion, l'être est sauvé. Mais la frigidité triomphante se condamne à la célébration de son propre néant. On rencontre dans les salons des gens qui se vantent haut et fort de s'être privés de tel ou tel délice pendant 25 ans. On rencontre aussi de superbes idiots qui se glorifient de ne jamais écouter de musique, de ne jamais ouvrir un livre ou de ne jamais aller au cinéma. Il y a aussi ceux qui espèrent susciter l'admiration par leur chasteté absolue. Il faut bien qu'ils en tirent vanité, c'est le seul contentement qu'ils auront dans leur vie.